Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de l'année 2019. L'occasion, comme le veut la tradition, est bien de vous présenter mes meilleurs vœux et nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de Radio Foot International de RFI. Une très bonne année 2019 donc, et notamment eh bien en football, en cette année de CAN, de Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, jour de reprise donc de notre émission et première sélection de sujets. Il y en a eu tellement pendant cette période de fête que nous en avons sélectionné certains, et encore toujours la CAN 2019 justement. Dans quelques heures maintenant, la fin du suspense, enfin c'est ce qu'on croit, le pays organisateur devrait être désigné par la CAF. Afrique du Sud ou Égypte, ce sont a priori les deux pays candidats. Et l'Égyptien Mohamed Salah sera-t-il, comme l'an passé, désigné meilleur joueur africain de l'année 2018? Christophe Jousset sera en ligne de Dakar, la capitale du foot africain, pour quelques heures encore, et peut-être nous en dira-t-il plus. Un jour des rois pour une nouvelle défaite de la Casa Real, de la Maison Royale. Les Merengues ont été battus chez eux. Une sixième défaite en championnat qui confirme la mauvaise santé d'une équipe championne d'Europe ces trois dernières années, avec des joueurs désormais très loin de leur meilleur niveau, notamment les cadres. Santiago Solari est-il vraiment l'entraîneur qu'il faut à ce club en ce moment? Qui a gagné le Boxing Day de la Premier League? Liverpool, qui malgré sa première défaite reste en tête du championnat d'Angleterre, ou bien Manchester City, qui a infligé aux Reds leur premier échec et reste au plus près pour tenter de conserver son titre de champion? Les Gunners, eux, manquent-ils encore à qui il semble plutôt manquer encore quelque chose pour atteindre le podium? Nous en parlerons de tout cela, et nous en parlerons et bien notamment avec vous, Karine Galli. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et bonne année alors, Karine.
Très bonne année à vous, ainsi qu'à tous les auditeurs.
Ouais, ils sont nombreux, je crois. Eric Rabessandratana, bonjour, bonne année.
Bonjour et bonne année à toutes et à tous.
Bruno Constant, Happy New Year.
Happy New Year.
Notre grand spécialiste du Boxing Day. Tout ça, vous avez dû bosser pendant toute la période. Ouais, on vous sentait au taquet, comme on dit sur les réseaux sociaux. Bonjour Hugo, bonne année à vous aussi.
Bonjour, bonne année Annie.
Les auditeurs ont dû vous suivre plus souvent durant cette période estivale.
Oui, j'ai pu leur souhaiter la bonne année.
Déjà, bon, mais là c'est sur Radio Foot. On y va, Radio Foot, c'est parti. Quelques notes qui nous viennent du Sénégal, puisque Dakar est la capitale du football africain pour quelques jours, alors que la Confédération africaine de football remettra demain le trophée du meilleur joueur africain 2018. Les dirigeants de la Confédération africaine sont au Sénégal pour désigner le pays qui organisera la CAN en juin prochain. Autour d'eux, le gratin des footballeurs du continent, des stars en nombre pour disputer ce soir le match des légendes. Il y aura face à face la sélection des légendes de Sénégal 2002 et les autres légendes du continent. Et justement, Christophe Jousset est à Dakar. Bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tout le monde.
Christophe, ce soir au stade Léopold Senghor, on va dire un petit peu en levée de rideau de ces journées avec des décisions importantes du côté de Dakar, eh bien il y aura, je disais, un match des légendes en hommage en plus à une autre légende du football sénégalais qui était Jules Bokandé.
Oui, Jules Bokandé qui sera honoré, dont la mémoire sera honorée ce soir dans ce match. Jules Bokandé, héros du football sénégalais, hein, disparu il y a maintenant 7 ans, prématurément à l'âge de 54 ans suite à une opération, et qui avait brillé notamment sous les couleurs du Sénégal. Hein. Il avait participé à deux CAN en tant que joueur, il avait entraîné aussi cette équipe, il était resté dans l'encadrement. Bref, il a accompagné un peu toute l'histoire récente du foot sénégalais. Et ce soir, eh bien, en hommage à Jules Bokandé, deux équipes vont s'affronter. Il y aura d'un côté les héros de la Coupe du Monde 2002, hein, ceux du Sénégal, qui sont allés jusqu'en quart de finale avec Tony Silva, Fadiga, Anadj Diouf, Habib Bey, Aliou Cissé aussi, qui va redevenir joueur et non plus sélectionneur. Les retrouvailles, on a assisté d'ailleurs une partie des retrouvailles hier soir à l'hôtel, c'était assez chaud, hein, c'était de grands moments de rigolade. Et visiblement, il y en avait certains qui ne s'étaient pas revus depuis un moment. Et donc, ce soir, on va les voir sur le terrain avec... alors, Diouf, bon, on disait parmi les héros de 2002, mais il se pourrait qu'on le voit dans l'autre camp aussi. Hein. D'ailleurs, il nous disait tout à l'heure qu'il pourrait jouer une mi-temps de chaque côté, parce que lui, elle a dit Diouf, qui a été deux fois joueur africain de l'année, hein, ça remonte à une quinzaine d'années maintenant, même un peu plus. Eh bien, elle a dit Diouf est aussi une des légendes. Donc, voilà, il pourrait faire une mi-temps dans une équipe et l'autre dans l'autre. Avec des légendes qui s'appellent par exemple Mark Fish, Samuel Eto'o qui vient de quitter Gorée, hein, il était là depuis quelques heures sur le sol de l'île de Gorée, où nous nous trouvons actuellement, et puis Kanu, Amouni, Mboma, Boutrika, enfin plein de noms qui font rêver les fans du foot africain.
Oui, ça promet d'être un beau spectacle, donc ce sera tout à l'heure au stade Léopold Sédar Senghor, ça sera 19h, hein, je ne me trompe pas, 19h heure de Dakar.
On nous a dit 19h30, ah. Coup d'envoi. vous allez comprendre que le programme est un peu mouvant, hein, sur d'autres points aussi. Et on nous a précisé aussi que l'accès était gratuit pour le public.
Donc ça, c'est
voilà. Si Léopold Sédar Senghor laisse entrer tout ce qu'il peut contenir, ça pourrait faire 40 000 personnes. On verra si. Le souvenir de 2002 déchaîne les passions.
Ouais, et si, eh bien, c'est l'occasion aussi, hein, pour les supporters et les admirateurs de toutes ces stars de Dakar d'aller, d'avoir la chance d'être dans le stade. Alors, Christophe, avant qu'on parle un peu de justement tout ce qui est prévu à Dakar, en tout cas, il y a quelque chose de sûr, hein, c'est que le sacre du meilleur joueur africain, ça sera bien demain soir.
Oui. Ça, c'est demain soir, ça n'a pas changé. Le sacre du meilleur joueur africain. Alors évidemment, tout le monde voit Mohamed Salah gros comme une maison, sauf que nous sommes au Sénégal et que Sadio Mané étant dans le top 3, eh bien, les Sénégalais espèrent voir l'un des leurs aller croquer ce trophée in extremis. Bon, c'est vrai que au vu de l'année 2018 qu'il a réussi, Mohamed Salah par grand favori, malgré sa Coupe du Monde moyenne avec à cause d'une blessure à l'épaule essentiellement. Hein, l'Égyptien est favori à sa propre succession, lui qui avait notamment, Bruno Constant s'en souvient, battu le record du nombre de buts marqués dans une saison à 38 matchs dans un championnat d'Angleterre, sous le maillot de Liverpool. Mais il y a donc dans son sillage Sadio Mané, le Sénégalais, très belle saison aussi avec Liverpool, et puis Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais d'Arsenal. Bon, en fait, c'est exactement le même trio que la saison dernière. L'année dernière, ça avait donné Salah, Mané, Aubameyang. On va voir si demain, l'ordre change dans ce tiercé qui brille dans le firmament du foot africain.
Justement, tiens, Bruno Constant, est-ce que vous pensez, parmi ces trois, les trois, notons-le, hein, qui jouent en Angleterre, les trois qui jouent en Première Ligue, est-ce que vous pensez aussi que ça risque d'être Mohamed Salah ou ça pourrait être aussi la chance de Sadio Mané?
Sadio Mané a une chance parce qu'il a fait, une bon début de saison là cette saison, alors que Salah a connu un démarrage un peu compliqué, mais sur l'ensemble de l'année Salah a été tellement exceptionnel que ça serait une injustice qu'il soit pas vainqueur.
Donc vous pensez que finalement ce trio risque de se retrouver dans le même ordre cette année?
A priori oui.
Ça va mieux pour Mohamed Salah sur la fin d'année, même s'il n'a pas fait un grand match contre
effectivement,
City.
Karine.
Après c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu les critères et Sadio Mané, même si Liverpool a perdu cette finale de Ligue des Champions, il a marqué. Des Africains qui marquent en finale de Ligue des Champions, c'est très rare. Alors évidemment Mohamed Salah est sorti prématurément de cette finale. Il a également marqué en Coupe du Monde avec le Sénégal, notamment face au Japon. Bruno l'a dit, son début de saison est quand même excellent, et lorsque Mohamed Salah marquait un petit peu le pas, c'était l'un des grands artisans qui permettait aussi à Liverpool de continuer sur la lancée de sa très belle saison de l'an passé. Donc moi j'aime bien aussi le changement et je trouve que ça serait pas du tout immérité que Sadio Mané l'an dernier Mohamed Salah a fait une saison exceptionnelle. Alors après le problème c'est que c'est toujours pareil,
c'est ça,
c'est comme le ballon d'or, c'est-à-dire que
là c'est une année civile,
ces trophées sont pas remis à la bonne période parce que l'année civile et l'année footballistique n'est pas la même. Donc Mohamed Salah l'an dernier, je dis oui, bien sûr. Si Sadio Mané venait à être sacré demain, ça me plairait aussi, parce que ça mettrait en avant finalement ces deux joueurs magnifiques qui évoluent ensemble à Liverpool, qui se trouvent parfaitement. Et puis Mohamed Salah a eu quand même des problèmes aussi avec sa sélection, hormis le fait qu'il soit arrivé blessé en
Coupe
Russie.
Du monde.
L'après a été aussi un petit peu compliqué. Il y a eu des dissensions avec sa sélection. Donc moi, j'opterais pour Mané, mais... Et je crois pas que ce sera le cas.
Et vous, Eric?
Ouais, moi aussi. Moi, je serais plus
un
penchant pour Mané, parce que voilà, bah pour
fidèle serviteur aussi. Enfin,
ouais,
on peut penser qu'il met
un peu
en valeur,
l'ombre, même voilà. Si je trouve qu'il est pas trop dans l'ombre, parce qu'il bosse quand même beaucoup et qu'on le voit beaucoup. Mais c'est toujours l'ambiguïté de ça, d'avoir ces trophées qui partagent la moitié de l'autre saison et la moitié de la saison qui suit. Donc forcément, c'est difficile de garder le même rythme sur des périodes comme ça qui se coupent avec les vacances au milieu.
Hugo, ce trio révélé durant ces derniers jours,
ce trio,
par la CAF,
c'est plutôt 2+1 parce que Aubameyang il part peut-être d'un peu loin, même si c'est le meilleur buteur de première ligue, donc peut-être que ça va l'aider pour l'année prochaine, effectivement la date à laquelle on donne le trophée brouille un petit peu les
résultats d'Arsenal quoi aussi.
Mais le problème, c'est que pour Sadio Mané, c'est qu'il évolue dans le même club que Salah, et la star de Liverpool, le fer de lance, c'est Mohamed Salah. Donc
ça me paraît un peu compliqué si les choses vont bien pour Liverpool, pour Sadio Mané
de passer devant Salah, à moins que Salah vraiment décline de manière beaucoup plus visible qu'il n'a décliné en début de saison, où il a eu du mal, et il y a eu quand même des explications, notamment sa blessure. Le mondial de Sadio Mané, même s'il y a eu un but, n'a pas été bien meilleur que celui de Salah. Bon, celui de Salah était réellement catastrophique, mais
malheureusement,
il n'y a pas
eu
de qualification pour le Sénégal.
Dans le contenu. Même s'ils ne sont pas sortis de la phase de groupe.
Oui, mais c'est pas, la différence n'est pas suffisamment éclatante pour faire la différence dans le cadre des trophées CAF.
Il n'y a pas une si grande Coupe du Monde que ça.
Oui, effectivement, mais Sénégal, il n'a pas été le meilleur Sénégalais.
Voilà, c'est ça.
Christophe, alors venons-en un peu aux prochaines heures, parce que ce qu'attend aussi d'une façon générale le continent africain, c'est de savoir où se produira le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations le 15 juin prochain. Suspense. On nous avait annoncé que tout serait révélé mercredi 9 janvier lors d'un comité exécutif exceptionnel de la CAF. Finalement, ce sera peut-être un peu avant.
Oui, alors sauf nouveau rebondissement, il devrait avoir lieu ce comité exécutif extraordinaire avec 24 heures d'avance. Bon, ça n'arrange personne parce que le feuilleton était parfait. Demain, on pouvait se concentrer sur les trophées de la CAF et il le mérite. C'est quand même, ça récompense toute l'année 2018, pas seulement pour le meilleur joueur, mais aussi pour la meilleure joueuse, le meilleur jeune avec Hakimi, Tessier, Ndidi. L'entraîneur de l'année, Aliou Cissé, Hervé Renard, enfin bref, il y avait vraiment une grosse intérêt pour ces trophées. On va en plus les joueurs africains vont élire pour la première fois leur 11 de l'année. On a changé un peu le mode de vote. Et d'un seul coup, là subitement, ce matin, on apprend que ce serait avancé de 24 heures le comité exécutif qui va donc télescoper l'autre événement qui est les trophées de la CAF. Voilà. Alors. Les raisons, elles sont peut-être à chercher du côté de l'agenda du président Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est en tournée en Afrique. Vous savez qu'il était hier à Conakry avec le président de la CAF, Hamad. Et d'ailleurs, à cette occasion, la Guinée, par la voix d'Alpha Condé, a accepté de recevoir non pas la CAN 2023, mais la CAN 2025. Et, bref, ce qu'on était en train de dire, c'est que ces deux présidents, Hamad et Infantino, étaient à Conakry hier. Il devait arriver aujourd'hui, le président Hamad, pour cette conférence de presse à laquelle nous avons assisté sur l'île de Gorée. Problème d'avion sur le vol spécial du président Infantino. Il y avait un problème technique, il n'a pas pu décoller. Il n'était pas présent à la conférence de presse tout à l'heure, qui s'est donc tenue sans lui. Mais malgré tout, alors on a un peu perdu de vue. Il devrait être là demain matin pour ce comité exécutif et dans la foulée, accompagner le président Infantino pour la prochaine étape qui, je crois, de sa tournée africaine, est le Bénin. Voilà, pour résumer les opérations de ce programme qui est, vous le voyez, régulièrement bouleversé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va pas être totalement affirmatif et vous assurer que le comité exécutif qui va attribuer la CAN 2019 aura lieu demain matin, même si pour le moment c'est la vérité, c'est la vérité du moment.
D'accord, en tout cas évidemment on continue à vous suivre, Christophe Jousset, grâce à RFI. Ce qu'on peut dire peut-être, Hugo, c'est que pour cette histoire de glissement, effectivement on en parlait depuis quelques temps et là on se retrouve avec une CAN 2025
Encore une fois, on fait pas tout à fait les choses dans l'ordre puisque on a clarifié 2025 avant peut-être d'avoir vraiment clarifié 2021 et 2023. A priori, si les informations n'ont pas changé, la Côte d'Ivoire ne veut toujours pas lâcher 2021 pour 2023 parce que le glissement il devait s'effectuer comme ça. Le Cameroun basculait en 2021. Le Cameroun est d'accord pour le faire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord pour elle passer en 2023. Une CAN qui devait être organisée, la CAN 2023, Guinée. Par la Guinée. Donc pour la Guinée, apparemment, on a trouvé une solution. C'est la fin quand même d'un petit feuilleton en ce qui concerne la Guinée, puisque on se souvient qu'à votre micro, Constant Marie, vice-président de la Confédération africaine de football, le Congolais avait semé de doutes quant à la crédibilité
du dossier,
d'une organisation guinéenne d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il avait même dit que le dossier n'existait pas.
En tout cas, pour cette CAN 2019, on essaye de rejoindre Christophe Jousset. Pour cette CAN 2019, pour ce qui est du moment, on a deux candidats. On a deux candidatures. Christophe Jousset, on vous retrouve, la communication était un peu compliquée. Christophe, pour cette année 2019, on a deux candidats, a priori, déclarés officiellement, que sont l'Afrique du Sud et l'Égypte.
Absolument. On en est resté à ce que la CAF ait communiqué à la mi-décembre, après la date limite pour se déclarer candidat à la reprise, le monde avait. Donc, Afrique du Sud et Égypte, la tendance est plutôt à l'Égypte, parce que l'Afrique du Sud, à l'heure où l'on parle, souffre toujours de ce problème de garantie gouvernementale, avec les candidatures doivent être les candidatures qui sont présentées par les fédérations, garantie gouvernementale.
Oui, Christophe, on a beaucoup de mal. Je suis désolée, on a beaucoup de mal à vous suivre dans cette conversation. Mais on vous retrouvera demain dans Radio Foot International et on verra si, l'agenda supposé ou l'agenda annoncé ont été suivis dans cette désignation du pays organisateur. Merci beaucoup, Christophe. Et bonne fin de séjour à Gorée. Vous rentrez sur Dakar. C'est ce qu'on disait donc, Hugo. Il y a deux candidats apparemment déclarés pour l'instant. Et c'est vrai que l'Égypte semble être favorite parce que l'Égypte, il y a un vrai engagement de la part des autorités, ce qui est un peu moins visible en Afrique du Sud.
Oui, il y avait des interrogations d'ordre politique, on va le dire comme ça. Pour ce qui était de la candidature sud-africaine, l'Afrique du Sud qui avait déjà joué les pompiers de service à l'occasion de la CAN 2013. 2013 pour l'Égypte, ça fait plus longtemps, 2006, la dernière CAN organisée sur sol égyptien, remportée d'ailleurs par les pharaons, hein, c'était le début de leur triplé,
de leur grande
période de domination, donc à voir, peut-être même un troisième pays qui sortirait du chapeau, on sait jamais. Non, a priori, on va rester pour l'instant sur les informations dont on dispose, Afrique du Sud et Égypte, et avantage, comme le disait Christophe Jousset, à l'Égypte.
Voilà, et on en saura donc plus demain sur ces décisions importantes qui seront prises du côté de Dakar.
Extra William José, gol. Gol, 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 gol. De la Real Sociedad. William José pone el centro, la tiene para la sentencia la Real. Gol. Gol, 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 Pardo. Gol. De la Real Sociedad. Delirio Chiriurdín. Delirio guipuzcoano del Bernabéu.
Et voilà, une défaite du Real Madrid alors que le Barça est champion d'automne. Et oui, la Liga n'en est même pas encore arrivée à la fin de la phase aller des matchs, mais l'équipe des Blaugrana a bien commencé l'année sur une victoire 2-1 face à Getafe et s'octroie donc déjà la première place du championnat de la Liga devant l'Atlético et le FC Séville. Alors que pour les Merengues, vous venez de l'entendre, eh bien 2019 a mal commencé ou se poursuit mal peut-être cette saison. Le Real avait terminé certes l'année par un troisième sacre consécutif au Mondial des clubs, mais il a débuté donc 2019 par une défaite à domicile. C'était donc face à la Real Sociedad, vous l'avez entendu, score 2-0. Défaite qualifiée de nouveau désastre par le quotidien sportif madrilène Marca, qui en une souligne la colère des supporters de Bernabéu. Un stade à moitié vide. Alors certes, le Real Madrid a des blessés, comme Gareth Bale. Certes, la vidéo n'a pas aidé l'équipe, mais finalement, le changement d'entraîneur n'a pas vraiment provoqué l'effet escompté. Est-ce que le successeur de Julen Lopetegui, Eric Rabessandratana, celui qui s'appelle Santiago Solari, l'Argentin, est-ce qu'il est responsable de cette suite, on va dire, de mauvais résultats? Il y avait eu la période Lopetegui et ça se continue avec lui finalement.
Non, il n'est pas responsable. Après, on se rend compte que le Real, on se rend compte surtout déjà que la décision de Zidane, elle n'est pas non plus due au hasard et qu'il s'est bien rendu compte qu'il y avait, il allait aller dans les problèmes et qu'il a bien senti le coup. Il est parti au bon moment. Il est parti aussi intelligemment parce que voilà, il a
même si c'était quand même pour un désaccord.
Bien sûr, mais je pense que s'il avait été sûr de
ouais, voilà, je pense pas qu'il aurait continué. Ouais.
Je pense pas qu'il aurait continué. Quand vous perdez Ronaldo, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais
pour le remplacer, perdu quand lui est perdu,
ouais,
parti.
Je sais, mais je veux dire pour le remplacer, il y a personne pour le remplacer. Donc vous perdez Ronaldo, vous perdez Zidane. Derrière, Lopetegui a fait ce qu'il a pu, mais je pense que quelque part psychologiquement, les joueurs sont atteints aussi de perdre et Zidane et Ronaldo.
Ça serait
quelque
une
part
raison.
Inconsciemment, même s'il y a une certaine peut-être tout le monde se remet en question, on se dit voilà, on repart sur un mais on n'enlève pas Ronaldo
pas
comme ça, on n'enlève pas Zidane comme ça.
Donc c'est pas la faute de Solari.
Je pense pas que ce soit la faute de Solari. Et puis ils sont, même si ça n'existe pas pour les clubs comme ça, ils vont jamais l'avouer. Ils sont dans une période de transition tout simplement et qu'il faut accepter de peut-être d'avoir des mauvais résultats et de perdre un peu de sa superbe et de se dire voilà, on va repartir sur du neuf pour la saison prochaine.
C'est ça la grande erreur. Et la grande erreur, c'est Florentino Pérez, c'est de pas avoir dit après le départ de Zidane, après le départ de Cristiano Ronaldo, dire bah ça va être une année de transition. On fait venir Lopetegui.
Jamais des choses comme ça.
On fait venir Lopetegui. Déjà il a mis le bazar dans la sélection espagnole, dans la chercher Lopetegui. Il a bousillé la Coupe du monde de l'Espagne, il prend Lopetegui à la limite qu'il l'assume jusqu'au bout et qu'il le maintienne. Lopetegui, c'est une philosophie à l'opposé de Zidane, avec un jeu collectif de passes, très, jeu très offensif, etc. Fallait lui donner du temps.
Ouais,
on savait très bien que le vestiaire, que l'effectif était en
mutation,
en fin de course, en fin de route. Voilà, il va falloir le renouveler avec un ou deux mercato, voire trois. Et fallait lui donner du temps. Au-delà de ça, on le change, on sait pas pourquoi, au bout de trois mois, parce que le vestiaire a décidé que, et on s'aperçoit qu'on peut mettre n'importe quel entraîneur à la tête de ce vestiaire-là. Le vestiaire, il est fatigué, il est usé, il a trop gagné.
Il y a une dynamique qui est cassée, en fait, c'est ça.
Bah ouais,
c'est
ils ont trop gagné. Ce qui est logique, hein, d'ailleurs, hein, mais faut juste l'accepter et communiquer d'une manière différente.
Ouais, Karine, Solari, c'était donc pas l'homme de la situation.
Ah non,
parce qu'il a gagné quand même le Mondial des clubs.
Non, mais c'est pas du tout le problème pour moi. Ce qui se passe cette année, c'est exactement ce qui s'est déjà passé l'an dernier, si on regarde en fait. Parce que l'an dernier, c'est Zidane qui est à la tête, donc évidemment Zidane t'hésite à deux fois avant de le virer parce qu'il y avait déjà les deux Ligues des Champions.
On se souvient qu'en février l'année dernière,
mais
il se demandait
voilà,
s'il allait rester.
Il y avait une période de trouble énorme. Il y avait une défaite en coupe à Bernabéu face à Leganés. Ça avait été quelque chose de marquant pour le Real Madrid. Zidane lui-même avait été sifflé, ça l'avait marqué, mais c'était aussi les choix de Zidane, parce que Zidane, au bout des deux premières années de sacre, logiquement, tu sais très bien que tu dois changer ton effectif, que tu dois renouveler. Et lui a choisi de ne pas faire ça. Il a choisi de continuer avec les joueurs qu'il avait fait gagner, les joueurs qui lui avaient fait confiance. Donc c'était un choix risqué, c'est un choix qui n'a pas du tout marché en championnat, parce que très vite, ils ont été décrochés. L'an dernier, très vite, on a su qu'ils ne pourraient pas concourir pour garder leur titre de champion d'Espagne, mais cette fin de champion les a amenés jusqu'à ce troisième sacre. Mais dans le contenu, les problèmes existaient déjà. Alors là, ils sont encore plus criants et il n'y a pas Zidane, donc un entraîneur et Kleenex forcément au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Solari, mais vous mettriez quelqu'un d'autre, il pourrait aussi vite sauter. Mais l'erreur, ça a été en amont de ne pas vouloir changer quand ça avait marché. Mais c'est normal, la trois quarts des entraîneurs, ils ne veulent pas trahir entre guillemets les joueurs qui les ont emmener tout en haut, mais le, problème, c'était il y a un an qu'il fallait déjà amorcer ce virage. Et l'autre souci, c'est Gareth Bale, qui ne sera jamais le successeur de Ronaldo. Depuis qu'il est arrivé de Tottenham, il ne l'a jamais été.
Et Florentino, très, très, très souvent blessé.
Voilà, et Florentino Pérez a toujours cru et a toujours adoré Gareth Bale. Mais Gareth Bale, par rapport à ce qu'il aurait dû amener, par rapport au prix, par rapport à tout le patatras qu'on
a fait.
Et maintenant,
il devrait avoir le premier rôle.
Oui, ça ne sera pas une réussite.
L'autre erreur, c'est de ne pas avoir remplacé Ronaldo. C'est de Florentino Pérez, on va chercher Eden Hazard, on met 150 millions, on le prend et comme ça, il y a un remplacement.
Mais son Gareth Bale, pour lui, ça devait être la figure de proue du Real Madrid. Mais ça ne le sera jamais, ça ne l'a jamais été.
Je ne sais pas s'il a les épaules pour remplacer Ronaldo. De ce côté-là, je ne sais même pas s'il a les épaules.
4 buts pour Gareth Bale cette saison en Liga. Un seul pour Asensio. 7 buts pour Benzema en Liga. À E3, donc ces joueurs ont inscrit 12 buts en championnat. Alors, comparaison n'est pas raison, surtout qu'on parle pas des mêmes championnats, mais Ronaldo, il en est déjà à lui tout seul à 14 buts en Serie A. Donc, clairement, les remplaçants ont quand même du mal à prendre le relais. Juste pour revenir sur Solari, alors, a priori, on est tous d'accord pour dire qu'il a peu de chances de faire long feu sur le banc du Real Madrid. On le voit pas vraiment venir comme un nouveau Zidane.
Néanmoins,
son bilan est plutôt positif, surtout si on le compare à celui de Lopetegui. Ils ont à peu près dirigé le même nombre de rencontres. 15 pour l'Argentin, 14 pour l'Espagnol, 12 victoires, 1 nul, 2 défaites pour Solari, qui est sur une mauvaise période, là, parce que vient d'enchaîner nul et défaite. 14 matchs pour Lopetegui, 6 défaites, 2 nuls et 6 victoires. Donc c'est clairement meilleur bilan pour Solari.
Solari doit avoir à peu près le même nombre de points que le Barça, depuis qu'il est arrivé à la tête du Real. Je crois qu'il y a pas une grande différence, parce que le Barça fait pas non plus une grande saison. Ils ont 10 points de retard, le Real avait 16 la saison passée à la même époque. Donc le Barça fait pas non plus une grande saison et le Real est encore en retard.
Mais ce qui coupe leur dynamique, c'est le championnat du monde, là. Parce que parce qu'ils étaient quand même pas mal en championnat. Ils étaient sur une bonne dynamique. Là, tu vas faire le championnat du monde. Et tu reviens c'est pour ça que c'est il y a aussi la dynamique qui est perdue là.
En tout cas, ce Real, il se retrouve donc à 10 points de Barcelone et quand même il est devancé par Deportivo Alavés qui est une équipe qui jusqu'à présent on l'a pas vu souvent dans le top 5 on va dire des équipes espagnoles talonné aussi bien par le Betis Séville. Il a 2 matchs importants prochainement, il va aller jouer à Séville contre le Betis et puis le FC Séville qui est troisième viendra jouer à Bernabéu et justement les cadres sont extrêmement absents. Notre confrère dans l'équipe aujourd'hui liste nom par nom tous ces joueurs de l'effectif, tous ces cadres qui sont vraiment très très absents actuellement. Même Marcelo, le Brésilien qui est là depuis si longtemps, a été sifflé pendant le match hier. Écoutons Luka Modric, Ballon d'Or l'année dernière, sur l'année écoulée, et qui admet quand même lui aussi des problèmes d'équipe.
Je crois que nos problèmes sont liés à d'autres choses que la VAR. Nous devons beaucoup nous améliorer et nous ne sommes pas dans une période idéale. Nous devons être plus proches et jouer plus comme une équipe sur le terrain. Il est important de prendre les matchs les uns après les autres et de ne pas parler du fait que la Liga soit perdue ou non.
Si es liga perdida o no, partido a partido y a ver qué pasa.
Oui, partido a partido, mais quand même à 10 points du Barça, on voit pas comment le Real pourrait être champion cette saison.
Non, ça paraît compliqué, Bruno. Même pas mi-championnat.
Ils sont pas champions d'automne.
Non, enfin là je pense que ça va être la transition. Ils finiront dans le top 3, ils sont dans les 3 premiers.
Ouais, il faut être dans les 4 premiers pour jouer la Ligue des Champions.
A priori, ils devraient finir dans les 3, mais c'est surtout il faut qu'ils retrouvent une identité de jeu et qu'ils
comment expliquer quelque chose en place. Parce que même Luka Modric, Ballon d'Or certes, mais
parce qu'ils sont parce qu'ils ont tout gagné.
Ils sont cuits dans leur tête ou cuits physiquement,
les deux.
Modric
est physiquement, parce que c'est normal, il a fait une saison de dingue, il a fait une Coupe du Monde. Il a fini tard parce qu'il a été finaliste, tu reviens tard. Et puis, ils ont tout gagné. Tous les champions te disent qu'à un moment, c'est compliqué de revenir sur terre. Deschamps, il t'expliquait quand il gagne la Coupe du Monde en 98. Pendant 6 mois, la Juventus a eu son grand-père. Parce que c'est compréhensible. Et pourtant, Didier Deschamps, c'était pas le plus gros fêtard et le plus gros bringueur de la terre. Mais il avait tellement tout donné, c'était une saison épuisante.
Mais pourquoi Griezmann, il est performant? Pourquoi la plupart des bleus champions du monde, ils sont à nouveau performants?
Pas tous. Tu regardes.
Parce que Marcelo, il a pas été loin en Coupe du Monde.
Oui, non, mais il y a à la fois la saison en club et il y a à la fois le fait que tu as tout gagné.
Liverpool, c'est pareil. Liverpool, c'est les gens. Non, mais Liverpool, ils ont fait la même saison. Pourquoi? Pourquoi l'excuse marche avec le Real et pas avec les autres?
Tous les champions, à un moment, ils sont rassasiés. Et le Real, il a gagné trois fois.
C'est pas physique, je suis bien.
Non, il y a les deux.
Il y a
les deux, il y a physique et mental. Enfin, ouais. Les bleus, moi, je te trouve un peu tendre. Umtiti, il est blessé. Pogba,
ils sont blessés.
Vu sa première partie. Blessé,
on y prend rien.
Ah, mais d'accord. Non, mais
Loris est performant. Griezmann est performant.
Ils sont plus jeunes aussi. Ils n'ont pas tout gagné. Par exemple, en l'occurrence, Griezmann n'a pas tout gagné.
Sur les 23, je suis pas sûr que la bascule soit plus positive que négative.
Hugo.
Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Karine, j'entends l'argument concernant les grands cadres du vestiaire madrilène, Ramos, Modric, même Benzema. En revanche, ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre, c'est pourquoi la relève, entre guillemets, les joueurs un peu plus jeunes comme Asensio, voire Isco, dans une moindre mesure, eux n'arrivent pas à prendre le relais et ne sont pas à la hauteur. Isco, il a complètement disparu du paysage et Asensio, c'est pas loin d'être la même chose.
Mais c'est parce que c'est une grande responsabilité de prendre le relais de joueurs qui ont porté les...
Donc il y a un problème de talent aussi.
C'est un problème de personnalité, de caractère,
d'être régulier.
D'avoir les épaules, c'est ça. Et puis d'avoir cette régularité, la régularité de Ronaldo, je suis désolé. Mais pour la trouver chez quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Hein. À part Messi, ça va être très compliqué. Donc, il y a aussi cette absence de Ronaldo. J'en parlais, mais elle est vraiment importante. On a l'impression que c'est quelque chose. Voilà, on passe à autre chose. Mais non, on passe pas à autre chose après un Ronaldo qui a été si important pour le Real de Madrid. Donc, voilà, il faut prendre ce relais et on n'a peut-être pas les épaules pour le prendre.
Bruno, qui peut dans le vestiaire, selon vous, parmi quand même ces cadres, parce qu'on pense peut-être à Sergio Ramos, qui est le capitaine. On pense à des joueurs comme ça. Qui pourrait secouer un peu ce vestiaire si tant est que Solari va rester? Et donc, finalement, dans l'effectif, quel pourrait être le joueur sur qui Solari miserait? Pour mais un peu fédérer.
Je pense qu'on n'en est même plus là parce que le Real Madrid, chaque année, ils se remettent en course pour gagner tous les trophées. Donc la remise en cause, elle existe déjà au Real. Elle y est permanente. Là, en l'occurrence, il y a une cassure vraiment et je pense que ça passera uniquement par un renouvellement de l'effectif. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre déjà ce mercato d'hiver. Recruter une star l'année prochaine, ce que Pérez va faire, je pense, avec un Eden Hazard qui ne va pas prolonger avec Chelsea, par exemple, pour au moins enlever un petit peu de responsabilité à certains joueurs comme Asensio, comme Isco. Isco aussi, il reste au Real, c'est pas gagné, mais au moins d'avoir de la fraîcheur dans cet effectif.
Retrouver un leader voilà, technique.
Et avoir de nouvelles têtes qui vont amener quelque chose de différent à cette équipe qui effectivement est en bout de course, c'est tout.
Mm-hmm. On peut parler de Vinicius Junior, le jeune prodige brésilien qui se débrouille plutôt bien. Diaz, un jeune milieu espagnol venu de Manchester City également, qui rejoint le Real Madrid mercato d'hiver. Vous le connaissez un petit peu ce joueur?
Ça part de plus loin, il va falloir attendre un petit peu, mais c'est un bon petit joueur effectivement.
Il y a un Mariano Diaz par contre qui est blessé.
Ouais, bah, de toute façon, c'était pas la meilleure idée de l'avoir repris. Jean-Michel Aulas, il a dû lui mettre un petit nœud autour du cou et il l'a renvoyé gentiment à Madrid.
Que pensez-vous du fait que Keylor Navas ait quitté définitivement ce club? Puisque
c'est logique.
Il a été longtemps le numéro 1. On a l'impression que, en fait, Florentino Pérez, il correspondait pas vraiment à ses critères à lui et il a préféré Thibaut Courtois. Mais est-ce que vraiment.
Bien dommage, quand même. Moi, je trouve ça bien dommage parce qu'il est. Il a été quand même assez performant. Alors oui, c'est vrai que Courtois est un très bon gardien, mais on prend un très bon gardien quand on a rien devant quoi. Si là c'est pour ramener dans les pattes de Navas, on lui ramène Courtois, forcément que lui il va pas rester, c'est logique, c'est complètement logique.
Navas c'était pas vraiment le point fort du Real.
Non, c'était pas le point fort, mais c'était pas un mauvais gardien.
Il y avait un poste quand même.
Non, mais c'était pas un mauvais gardien.
Non, c'était pas un mauvais gardien, mais
je suis d'accord avec toi.
Avec Courtois, je pense qu'il passe un cran au-dessus quand même.
Oui, ils avaient raté De Gea de peu l'année d'avant déjà, donc ils voulaient. Navas qui quitte le Real Madrid, ça me fait rien du tout. C'est-à-dire que non, mais si demain vous me dites que Sergio Ramos quitte le Real Madrid, oui, pour moi ça c'est quelque chose d'énorme et ça veut dire beaucoup. Keylor Navas, ça a été un gardien du Real Madrid, dans l'histoire du Real Madrid.
Non, c'est pas lui, c'était
pas Casillas.
Une séance de tir au but.
Oui, mais c'est pas lui auquel je penserai pour les trois Ligues des Champions en premier. Et c'est pas le plus grand gardien de l'histoire du Real. C'était un gardien de but qui a très souvent été remis en cause quand même. Parce qu'on se souvient aussi de ses bourdes. Il y a un positif.
Et il est parti vers l'Angleterre.
Là, il est en train de pleurer.
Il est parti. Non, mais j'ai même pas suivi en fait.
Il me semble qu'il est parti vers Arsenal, non? Qu'elle en a
signé.
Il me semble. En tout cas, c'était dans
C'est pas signé, je pense.
Ah non, c'est pas signé.
C'était dans l'air du temps.
Déjà, Arsenal, ça me ça serait très surprenant parce qu'ils ont quand même recruté un Allemand
cet été,
voilà, et qui fait plutôt bien le boulot. Donc j'ai du mal à croire qu'il signe Arsenal.
Bon, eh ben si Keylor Navas n'est pas allé en Angleterre, non. On y va quand même.
Qui nous appelle.
Le champion est le leader. Et oui, ce devait être le choc d'ailleurs de ce Boxing Day. Manchester City, Liverpool. Et ce le fut. Ces quatre journées de championnat en 10 jours ont tenu en haleine les passionnés de Premier League. Et la confrontation Citizen Reds a abouti à une dispute serré entre donc champion sortant et adversaire direct qui se présentait alors invaincu à l'Etihad Stadium. Et on s'en souvient, Liverpool n'avait encore perdu aucun match de championnat. Eh bien, ils ont perdu leur premier match. Et Pep Guardiola, lui, il a vraisemblablement bien retrouvé son groupe.
Nous avons battu une équipe superbe qui est capable de marquer à tout moment. Mais nous, nous avons été incroyables dès la première minute. Bravo à toute l'équipe. Ils ont tous été incroyables. Je suis heureux de cette victoire, de réduire l'écart avec Liverpool, de redevenir deuxième. Maintenant, tout est ouvert.
Alors la question après ce Boxing Day, quand même, je me tourne vers vous, Bruno Constant. Y a-t-il un vainqueur? Et ce vainqueur est-il Liverpool, toujours premier du championnat d'Angleterre, ou alors Manchester City, deuxième, mais on va dire à 4 petits points, parce qu'il pourrait être à 10 points.
C'est surtout que City aurait pu être le très très grand perdant de ce match. C'était vraiment ce qu'on appelle un match à 6 points. Et si c'était si s'inclinait et qu'il se retrouvait à 10 points, c'était fini. Guardiola l'avait même dit avant le match. Et voilà, City est forcément le vainqueur de ce match-là, même s'ils sont à 4 points, ils remettent un tout petit peu de pression sur Liverpool.
Ils sont pour vous les vainqueurs du Boxing Day de la semaine.
Bah ouais, parce qu'ils ont plutôt bien tenu le choc, 3 victoires en 4 matchs, voilà, ils maintiennent à distance les concurrents. Après, la seule question qu'on peut se poser, c'est de savoir si Liverpool va pas commencer à sentir la pression, la peur de perdre, de laisser échapper ce titre qu'il est fuit depuis 1990. Et on se souvient de le dernier mémoire en 2014 avec Steven Gerrard, il lui avait échappé sous les crampons. Donc il y a cette peur qui pourrait arriver, parce qu'on est quand même encore loin de la ligne d'arrivée. Mais voilà, Liverpool ne doit pas s'affoler. Liverpool a plutôt fait un bon match contre City. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué, les Anglais calculaient, un centimètre, 12, 13, quelque chose comme ça. Avec ce ballon qui n'a pas totalement franchi la ligne que John Stones a sauvé, avec les deux poteaux, le poteau rentrant de Sané et le poteau sortant de Mané. Voilà, ça s'est joué à des petits détails. Et ça n'a pas été un grand match de football. Les deux équipes nous avaient habitués à vraiment des belles rencontres de football.
La deuxième
de
était meilleure que la première.
Ouais, mais c'est un vrai combat. Et un combat comme on n'a pas vu depuis très longtemps en Angleterre. Même l'Etihad Stadium, qui est réputé pour sa froideur, a été bouillant. Et je trouve que City a joué un peu à contre-emploi. C'était la première fois en 97 matchs de Premier League que l'équipe de Guardiola finissait le match avec une possession inférieure à son adversaire. Ce qui veut bien dire que Guardiola a changé un peu son fils de peau, il avait toujours du mal face à Klopp, il perdait souvent face à Klopp, et là il a changé un petit peu, et on a vu que City est capable de tenir le choc, de défendre, de bien défendre, et de s'imposer comme ça en contre.
Karine, pour vous c'est aussi City qui est vainqueur de cette période?
J'ai envie de dire les deux. Non, mais parce que Guardiola l'a très bien dit, si ils avaient perdu ce match, alors évidemment avant le match il disait que c'était pas crucial, une fois qu'il l'a gagné il t'expliquait que s'il l'avait perdu le titre était sûrement foutu.
Ça s'appelle de la com.
Voilà, ça s'appelle de la com, et Guardiola en fait aussi. Donc forcément c'était très important pour Manchester City, mais à côté de ça c'est quand même Liverpool qui est en tête, et cette victoire face à Liverpool peut pas non plus nous faire oublier ce qui s'est passé face à Southampton et Leicester, parce que c'était pas des défaites hold-up de la part de Leicester et Southampton, et tu peux jamais imaginer à la base que ces deux équipes, et en plus avec deux matchs de suite, vont taper City. Donc c'est pour ça que je suis mitigée, parce que Liverpool continue de nous impressionner dans cette partie de saison là, et dans les vacances de Noël, mais la victoire qu'on retiendra c'est celle de City. Mais dans le jeu, je trouve pas que City soit forcément
convaincant,
souverain au même titre que Liverpool. Donc je trouve qu'il y a on peut pas mettre Liverpool ou City en avant. Pour moi c'est quand même les deux vainqueurs de cette période de Noël.
Eric,
un petit peu quand même City, parce que psychologiquement de battre Liverpool, forcément ça leur casse un peu la dynamique et puis ça relance la dynamique ouais. City. Donc un petit peu de ce côté-là, mais comme le disait Karine, c'est difficile de dire maintenant que City a pris l'avantage sur Liverpool parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, parce que la Ligue des Champions va faire aussi va user les organismes, on va voir qui va aller le plus loin, qui va perdre beaucoup d'énergie dans cette compétition. Il y aura les affrontements aussi. Peut-être que maintenant Liverpool est moins serein parce qu'ils ont perdu, donc ils vont peut-être se dire c'est possible et que ça peut nous arriver. Donc contrairement à City qui se dit voilà, on a battu Liverpool, on est parti pour une petite série derrière.
Hugo. Mais justement, je voulais poser la question à Bruno Constant. Quel effectif est le mieux armé pour affronter toutes les échéances à venir, la lutte pour le titre en Première Ligue, mais également les coupes et les coupes la Coupe d'Europe, surtout celui de City ou celui de Liverpool?
Celui de City beaucoup plus riche parce qu'ils ont vraiment complètement doublé les postes, tous les postes. Ils ont quand même fait la première partie de saison sans Kevin De Bruyne, qui était leur meilleur joueur la saison passée, qui est en train de revenir, et on s'aperçoit que même sans De Bruyne, ils sont quand même pas loin de la première place. Ils ont vraiment des joueurs qui prennent un volume énorme. Je pense à Bernardo Silva qui est extraordinaire sous Guardiola, qui est en train de grandir avec Guardiola.
Et dans ce match-là particulièrement.
Ce match-là, il était formidable. Il y a juste un poste qui est défaillant. C'est le poste de milieu axial défensif. C'est Fernandinho qui a fait un match qui était le meilleur joueur pour moi face à Liverpool. Et il a été absent comme par hasard les deux défaites de City lors des défaites. Et Guardiola a bien reconnu qu'il n'avait pas de joueur pour le remplacer. Il a pas le même profil. Donc ça, c'est un gros souci pour City.
S'il se blesse, c'est compliqué aussi quand même.
Arrière gauche, il y a du monde.
Il bricole à chaque fois quand il n'y a pas Mendy.
Ouais, mais avec la porte face à Salah, ça a plutôt bien marché quand même.
Oui, mais est-ce qu'il va le faire tout le temps?
Non, mais il peut le faire. Mais après Liverpool s'est quand même renforcé dans cette optique-là d'avoir davantage de bancs et de pouvoir tenir la route. Mais la Ligue des Champions va jouer un grand rôle parce que je pense que Liverpool va donner la priorité au championnat. Liverpool affronte le Bayern en 8e alors que City, j'ai plus l'équipe en tête, mais ils sont largement favoris.
Schalke 0.
Voilà.
En tout cas, ce qu'on peut se dire peut-être, c'est que c'est bon pour la Première Ligue finalement parce que ils se retrouvent à 4 points et le suspense et même les autres équipes ne sont pas très loin. Tottenham à 2 points de Manchester City, Chelsea à 4 points de Tottenham,
Tottenham, c'est le grand perdant.
Tout le monde se tient en 10 points. On va y venir à cela, mais en tout cas,
la défaite contre Wolverhampton,
Il y a encore beaucoup de suspense quand même dans cette première ligue.
Oui, c'est presque la première fois depuis longtemps parce qu'on avait été habitué à voir des équipes qui faisaient la course seule en tête. Et là, enfin, on a vraiment un duel entre deux équipes qui sont à peu près de niveau égal. Donc ça va être hyper intéressant. Et puis le match-là était une énorme pub pour le foot anglais.
Alors justement, Eric, parlons, parce que 3e Tottenham, 4e Chelsea, peut-être que ces deux équipes qui se tiennent en 4 points, qui sont 3e et 4e, peut-être qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles ne sont pas assez régulières.
En tout cas, pour Tottenham, il a reconnu que lui, ils n'étaient pas armés pour jouer le titre et pour rester dans la course. Alors ils sont toujours dans la course. Moi, je trouve que cette défaite de Wolverhampton, j'ai trouvé ça catastrophique pour Tottenham. Alors, bien sûr qu'ils sont toujours à 2 points derrière City et tout ça, mais d'avoir fait ce parcours avant et de se couper l'herbe sous le pied avec cette défaite de Wolverhampton, ça montre aussi qu'ils n'ont pas les épaules pour rester dans la course, mais c'était pas le bon moment pour perdre et surtout avec la dynamique qu'ils avaient.
Ils sont effectivement un cran en dessous, mais en termes d'effectifs, c'est une équipe qui a pas recruté cet été, par exemple. On sent, il y a le nouveau stade qui est toujours pas arrivé, enfin il y a pas mal de soucis. Pochettino, on sent bien qu'il s'impatiente un peu et on va entendre beaucoup parler de son nom l'été prochain vers d'autres destinations. Et pour moi le grand perdant, c'est Chelsea, parce que Chelsea, on les sentait, ils étaient 3e, ils essayaient de pousser un peu, essayaient de se mêler à la course au titre, et on a bien vu qu'ils sont beaucoup trop justes, qu'il y a un gros problème d'attaquant et que Maurizio Sarri est en train de s'impatienter justement sur les avant-centres. On parle de Cavani, on parle d'autres, il y a d'autres noms qui circulent. Ils sont vraiment un cran en dessous et maintenant ils sont même menacés par Arsenal et Manchester United pour la 4e place.
Alors justement, Karine, Arsenal, on avait vu notamment.
Arsenal ne change pas.
un peu.
C'est ce que j'allais vous demander.
Ils continuent de se prendre des dérouillés face aux gros.
On attendait le match face à Liverpool en se disant peut-être que Unai Emery a trouvé une clé que Arsène Wenger ne trouvait pas, et vous trouvez que c'est toujours pareil.
Ce qui me fait rire avec Arsenal, c'est que chaque année, même quand Arsène Wenger est encore là, on disait ça y est, là, les soucis ont été vraiment résolus, on a ciblé les points faibles. Mais non, je veux dire, et je lis beaucoup Bruno Constant, et Bruno Constant nous disait avant même que le championnat débute que les problèmes défensifs existeraient toujours. Existent toujours, et ça n'a absolument pas changé du côté d'Arsenal. Donc ce qui est fou, c'est qu'en fait on veut toujours nous faire croire croire que les choses changent. Non, mais c'est vrai. Et Arsenal.
Non, on disait ça ce matin en préparant l'émission, donc ça, je trouve ça.
On veut toujours nous faire croire que les choses changent. Et je me souviens même que l'équipe, le jour de ce fameux match, avait mis Unai Emery en une. Je sais plus quel titre.
Le Basque.
Voilà. C'était là. On allait voir le nouvel Arsenal ou pas. Bon, ben, le ou pas, évidemment, c'est celui qui a.
Qui l'emporte.
Ouais, c'est celui qui l'emporte. Donc, moi, je trouve ça fascinant que chaque année, les gens pensent que c'est changé. Alors que dans le recrutement, il y a effectivement des choses qui ont été faites, notamment au poste de gardien l'été dernier. Il y a eu les trouvailles, évidemment, avec le petit français ou le petit colombien. Il est colombien? Non, il est espagnol.
Qui ça?
Torreira.
Non, il est uruguayen.
Uruguayen. Mmh. Donc, il y a eu des trouvailles. Mais après, par rapport aux autres cylindrés, il y a toujours des manques énormes. Donc, c'est pas suffisant. Après, ils ont la Ligue Europa, ce qui est quand même pas mal à jouer. Chelsea l'avait gagné en 2013.
Ils sont en reconstruction aussi. Ils sont quand
même. Non, mais oui, mais ils sont en reconstruction depuis des années.
Ils sont dans l'après-Wenger, malgré tout.
Oui. Mais quand ils étaient avec Wenger, ils étaient déjà dans la reconstruction de Wenger.
Un nouveau cycle de 2-3 ans.
Enfin, Wenger.
Et il y a quand même des progrès. Même moi, j'arrive à le reconnaître, il y a quand même des progrès.
Mais ils doivent changer leur charnière centrale.
Ils ont progressé contre les petits. Ouais. C'était mieux quand même. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est ça la progression.
En tout cas, Arsenal est cinquième. Et demain, nous parlerons de Manchester United, de cette équipe qui a l'air de revenir au classement. En tout cas, ils sont plus trop loin d'Arsenal. Ils sont sixième et nous en parlerons car ils vont bientôt jouer en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Et ça peut nous intéresser. Allez, pour terminer l'émission, j'aimerais vous demander votre avis ou votre commentaire sur Franck Ribéry. Franck Ribéry, sanctionné par son club du Bayern Munich ces dernières heures. Alors, non pas pour sa fameuse entrecôte dorée dégustée dans un restaurant à la mode de Dubaï, mais pour les insultes qu'il a proférées à travers son compte Twitter, où il s'est, comme on dit, lâché. Et où il a donc proféré beaucoup d'insultes. Il a craqué, Franck Ribéry, après un torrent de commentaires, suscité par son fameux repas de fin d'année. Une question, Karine. Est-ce qu'il n'est pas un peu la cible facile aussi, Franck Ribéry, toujours des insultes, et notamment, bon, on sait que les réseaux sociaux permettent beaucoup ça, mais que quand même, c'est une cible privilégiée, parce que, d'ailleurs, Blaise Matuidi l'a révélé aujourd'hui, lui aussi, il était allé dans le même restaurant.
Tout le monde était allé au même endroit. Mais non, mais le monde entier y allait.
Tout le monde se mettait peut-être pas en photo sur les réseaux sociaux.
Non, mais le monde entier, quand je dis le monde entier, c'est le monde du foot y allait.
Pas que du foot, d'ailleurs.
Il y a quelques années, les délire des footballeurs, c'était de faire le truc là où je mets du sel là sur l'entrecôte. Ils célébraient leur but comme ça. Ouais. Il y a une époque, certains joueurs. Donc, ce que Ribéry a fait, c'est le truc commun de tous les footballeurs, parce que il faut dire que quand il y a quelque chose qui est à la mode, tout le monde le fait. Tu vas à Dubaï, tu vas chez le
Turc là.
Le Turc, tout le monde va chez le Turc. Mais évidemment, Franck Ribéry est la bête noire facile, parce que Didier Deschamps est allé manger dans le même restaurant deux jours avant ou deux jours après, on n'en sait rien, et on s'en moque. Et évidemment, il sera pas critiqué. Franck Ribéry, c'est un joueur qui en France n'est pas forcément très aimé, mais je dirais plus par les gens qui ne suivent pas le foot. C'est plus par l'opinion publique. C'est pas vraiment par les suiveurs de foot, comme un Karim Benzema n'est pas forcément très aimé par l'opinion publique, mais par rapport aux suiveurs du foot, il est plutôt évidemment apprécié, en tout cas reconnu à sa juste valeur. Et c'est ça qu'on entend, parce que là, on parle surtout d'un tweet d'Audrey Poulvard. Vous imaginez bien qu'Audrey Poulvard, elle ne sait pas ce que fait Franck Ribéry au Bayern Munich.
Une présentatrice de la télévision, sans avoir pris l'information que le prix n'était pas ça en plus.
Parce qu'à la base, il y a quelqu'un qui n'est pas du sérail du foot qui l'a exposé, parce que sinon.
Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que ton boulot, c'est quand même d'aller voir que c'est pas.
En l'occurrence, elle a exposé des informations des médias, de CNews et d'autres, on peut les citer, parce que qui n'ont pas vérifié l'information, parce qu'on annonce une viande à 1200 euros, c'est totalement faux.
Mm-hmm. Déjà.
Les prix sont en dirhams.
Mais alors pourquoi Ribéry est particulièrement ciblé par des gens un petit peu démagos?
Mais parce qu'on, voilà, c'est ça, c'est de la démagogie.
Je suis pas spécialement fan de Ribéry, j'ai absolument rien contre Ribéry. Mais là, je trouve ça complètement grotesque de l'attaquer de gratuitement comme ça et de. Alors, sa réponse, elle est pas bonne non plus. Hein. Attention, parce que c'est pour ça qu'il est sanctionné.
C'est pour ça qu'il a été sanctionné. Mais c'est vrai qu'au début, c'était peut-être aussi un peu injuste de le pointer du doigt.
Mais c'est totalement injuste. Il fait ce qu'il veut de l'argent qu'il gagne.
Surtout qu'il.
Pas surtout. Je suis désolé.
Non, surtout qu'il fait beaucoup d'offres, beaucoup de dons à des œuvres caritatives.
Il n'est pas obligé en plus, même s'il n'en faisait pas, il ne serait pas critiqué.
C'est la fin de ce premier Radio Foot de 2019. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Laurence Salerno qui était à la réalisation et à Louis Lafargue. À demain.